Bonjour, alors nous allons commencer cette séance de l'après-midi qui va être consacrée au travail. Je voudrais dire deux, trois mots et puis m'effacer. Vous savez que le grand but d'un passeur de parole, c'est de ne pas l'occuper. Je vais essayer de tenir ma vocation et je vais vous demander de m'aider à ça, donc à ce qu'on se concerte, à ce qu'on s'accorde sur les axes essentiels de ce qui me semble à discuter ici. Premièrement, le fait que le travail soit au centre de la discussion, c'est une très bonne chose. Je crois que les personnes qui sont venues ici partagent cette idée qu'il est très sain que dans notre société, on puisse consacrer un temps en se centrant sur le travail. Alors, ce que je veux dire, je vais essayer de le concrétiser un petit peu. Je pense que le travail est indissociable de l'emploi, bien sûr. Mais ce qui me semblerait intéressant, c'est qu'on ne décroche pas du travail et des questions de travail et des débats sur le travail dans la conversation que l'on va avoir. Ce qui nous est demandé, c'est bien sûr de voir ce qu'il y a de neuf. Quoi de neuf dans les pratiques ? Donc, nous aurons aussi au centre des discussions d'aboutir en tous les cas ou de ne pas décrocher des situations pratiques et des réalités pratiques de ce travail. Voilà le premier point que je voulais suggérer. Deuxième élément, sur ces questions de travail, sur ces enjeux du travail, ce qui nous est proposé dans la plaquette et dans l'introduction, dans l'invitation à ce débat, c'est de faire attention, en gros je vais traduire à ma façon les choses qui sont indiquées dans la plaquette, de faire attention au traitement des personnes et à la façon dont les personnes vivent le travail, c'est-à-dire au traitement qui est mis en œuvre notamment par ceux qui organisent le travail, par les managers, les organisateurs, les décideurs, les directeurs, etc., Et la façon dont les intéressés, c'est-à-dire ceux qui effectuent le travail, qui vivent les situations de travail, ressentent les choses. Ce que je suggérerais, c'est qu'on ne se limite pas à ça, mais qu'on voit aussi, qu'on s'autorise aussi de parler de la façon dont l'activité des organisations, que ce soit les entreprises, que ce soit les services, est pensée, réorganisée. Et je pense que Philippe Askenazy a été invité aussi, peut-être pour nous parler du nouveau productivisme, enfin, de choses qui dépassent ou qui répondent à la question de la mise en œuvre d'une politique d'emploi ou d'organisation de l'activité des personnes. Voilà le deuxième élément que je voulais suggérer. Troisième élément, je propose qu'on ne s'en tienne pas à la description, à l'analyse des situations de travail, mais qu'on essaie aussi d'avoir un peu l'ambition de relier ça à la thématique générale de ces trois jours, qui est la question de la démocratie. De deux façons. Premièrement, que l'on s'intéresse aussi, ou qu'on ne s'interdise pas de parler de la façon dont se débattent, se discutent, se mettent en controverse, et parfois en accommodement ou en conflit, la façon de penser et de s'arranger au travail dans les entreprises, dans les organisations, dans les espaces de travail. Donc, l'on voit aussi, pour essayer de réactiver, juste par clin d'œil, un vieux terme qui était celui de la démocratie industrielle, comment, en société, dans les mondes de travail, on débat et on discute de ces questions-là. Je pense que de toute façon, François Dubé avait là-dessus aussi l'idée que s'il était invité, c'est aussi pour traiter des argumentaires, pas simplement des argumentaires pensés, mais aussi des argumentaires dits, déployés par les gens au travail. Et ces argumentaires dépassent simplement l'analyse des situations. Il y a aussi du jugement moral, du jugement politique, on l'attend un petit peu sur ces questions-là. Et la dernière suggestion que je voulais faire, c'est qu'on élargisse aussi ce périmètre des interférences entre démocratie et situation de travail pour réfléchir à la façon dont les politiques du travail sont menées, mais au niveau du pouvoir, au niveau de la société plus largement, la façon dont les choses sont débattues dans la société, c'est-à-dire qu'on s'autorise de réfléchir à la façon dont la société démocratique dans laquelle on est se comporte à l'égard du travail. Voilà donc en gros quelques axes de cadrage, dont certains sont des restrictions et puis d'autres sont plutôt des ouvertures par rapport à ce qui était un peu annoncé. Et il me semble que de toute façon, ça répond assez bien fondamentalement aux personnes qui sont sollicitées pour prendre la parole dès que je l'aurai lâché. Philippe Askenazy, donc directeur de recherche au CNRS, économiste, et qui, en dehors de la virtuosité du maniement des chiffres, ce que j'admire, puisque moi je n'ai pas cette aptitude-là, travaille depuis longtemps en fréquentation avec d'autres approches, y compris des approches de terrain, des approches beaucoup plus délimitées. Donc il nous proposera un dialogue du point de vue de grande ampleur, mais en connaissant les situations de ce que j'appellerais le ras du terrain. François Dubé, professeur en sociologie à Bordeaux et aussi directeur d'études à l'École des hautes études, qui nous parlera d'un autre point de vue, c'est-à-dire, je crois, de la sociologie de la critique du travail telle qu'elle est faite par les gens qui l'effectuent. Et il me semble que c'est un peu ce qui est dans le chapitre introductif du livre. Non pas une sociologie critique, mais la sociologie de la critique par les acteurs eux-mêmes, avec ses références morales et politiques permettant de juger ou de parler du travail. François Chérec, est-ce que je vous présente? Oui. Égalité, donc secrétaire général de la CFDT. La seule chose que je voulais dire, c'est que vous êtes héritier d'une très très longue tradition de fréquentation entre syndicalisme et sciences sociales de façon générale. Et donc, vous n'êtes pas tout à fait... ou même pas du tout, le syndicaliste invité dans un monde intellectuel. Les choses sont beaucoup plus interactives que ça, et depuis très longtemps, pour ce qui concerne la CFDT. Voilà, alors nous avons très très brièvement fixé l'ordre d'intervention, et nous n'avons pas tout à fait choisi l'ordre alphabétique. Philippe Askenazy va commencer, François Dubé continuera, François Chérec prendra la suite. D'une certaine façon, ça pourrait induire la macroéconomie donnant les déterminants, puis la subjectivité des personnes, puis l'action. Et nous verrons que dans le débat, les uns les autres échappent à cet étiquetage un peu superficiel des choses. Un quart d'heure pour chacun, puis débat, si nous nous en sortons bien, débat entre les personnes et les intervenants. Il m'a semblé que très souvent, les intervenants ont envie de dialoguer entre eux. Et puis, de toute façon, une demi-heure, en gros, de débat avec vous. Voilà, en gros, le programme que je vous propose.
Merci, merci pour cette introduction. Et puis, merci à tous d'être venus par cet après-midi de beau temps. Sombre ici. Bien, alors, je ne vais peut-être pas jouer l'élève consciencieux en parlant immédiatement de questions d'organisation du travail, de productivité du travail ou autre, mais dans les dernières semaines, on a beaucoup entendu le mot travail au travers d'une question particulière, et je vais rentrer par celle-là, et vous allez voir, je vais aller dans la macro, comme on dit, jusqu'au au plus microéconomique, qui est celle du partage de la valeur ajoutée. Alors, comme vous devez le savoir, vous avez, la semaine prochaine, et on a commencé déjà à voir des premiers aspects, un rapport va être rendu par le directeur général de l'INSEE sur le partage de la valeur ajoutée en France. C'est-à-dire, en gros, ce qui revient aux travailleurs, d'ailleurs, souvent, je préfère parler de travailleurs que de travail, donc ce qui revient aux travailleurs et ce qui revient aux capitalistes, aux détenteurs du capital, que ce soit pour renouveler le capital ou pour le rémunérer. Donc ce rapport dit en gros qu'on se trouve à un niveau, pour la part qui revient au travail, aux travailleurs, historiquement bas, et s'interroge sur les raisons de ce bas niveau. Alors, je pense que c'est effectivement une partie, disons, de la problématique autour du partage de la valeur ajoutée. On a un vrai questionnement à avoir sur la valeur du travail. Si cette valeur du travail a décliné depuis 30 ans, eh bien, on doit reprendre une réflexion sur qu'est-ce que doit être la valeur du travail au sein des entreprises et son partage avec le capital. Alors, je vous avoue que sur ce plan-là, les économistes n'ont pas véritablement les outils pour pouvoir y répondre. On ne sait pas véritablement expliquer ce que devrait être un bon partage de la valeur ajoutée, et on a beaucoup d'hypothèses sur ce déclin. Ça peut être, on pourrait dire tout simplement, c'est les technologies. Le capital, eh bien, c'est lui, il doit être mieux rémunéré parce que les technologies sont plus performantes, de plus en plus performantes. On a une révolution industrielle, et donc c'est normal que le capital soit mieux rémunéré. Bon, mais donc ça c'est un premier débat, on va certainement beaucoup en parler dans les semaines prochaines en France, mais à côté de cela, il y en a un dont on parle relativement peu sur ce partage de la valeur ajoutée, c'est son absence de volatilité. Alors qu'est-ce que c'est derrière ce mot technique ? C'est tout simplement que normalement, lorsqu'il y a une crise économique, eh bien celui qui doit payer, entre guillemets, c'est plutôt le capital. Pourquoi ça ? Parce que les salariés conservent leur emploi, conservent leur rémunération, et donc la part des profits, lorsqu'il y a un retournement économique, doit diminuer, donc au total la part du travail doit monter. Et si on remonte dans le temps un tout petit peu, les États-Unis ont connu une très forte volatilité pendant la guerre du Vietnam, parce qu'il y a eu des chocs macroéconomiques très importants, et cette volatilité, elle a été absorbée surtout par les profits, et la part du travail a fait fortement augmenter durant cette période-là. Et en France, on l'a connu lors des chocs pétroliers, on a eu une forte montée de ce qui revenait aux travailleurs, ou plutôt il y avait un déclin de ce qui revenait au capital. Donc on avait une sorte d'équilibre qui était né des 30 glorieuses, où le capital était certes bien rémunéré, mais c'était lui qui supportait le risque. Lorsque ça allait mal, eh bien, on avait la part qui revenait au capital ou aux capitalistes qui était en déclin. Et la chose frappante que l'on voit depuis une quinzaine d'années, et ça c'est un phénomène mondial, l'ensemble des pays développés, c'est qu'il n'y a plus cette volatilité. C'est-à-dire qu'en gros, lorsque ça va mal, eh bien, la part qui revient au capital, elle peut décroître un tout petit peu, mais pas tant que cela. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi on est sorti de cet équilibre où le risque devait être supporté par le capital ? Alors c'est là qu'il faut creuser, au lieu d'aller dans des phénomènes très macro, rentrer dans la microéconomie et le fonctionnement des entreprises. Alors qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? On s'aperçoit qu'il y a eu des changements technologiques, organisationnels, massifs. Eh bien, pendant ces changements-là, le capital, en quelque sorte, en a profité pour se garantir face au risque. On parle souvent des grands dirigeants, des grands patrons d'entreprises qui, non seulement ont des fortes rémunérations, mais en plus des parachutes dorés. D'une certaine manière, ils ne font que répliquer ce qu'ils ont eu à mettre en place au sein de l'entreprise pour la protection de leurs actionnaires. On se protège. Alors comment on se protège ? Eh bien parce que le fonctionnement du marché du travail et le travail lui-même s'est modifié. On a eu une forte augmentation, et ça dans la plupart des pays, de la précarité du travail. Lorsque vous avez un emploi, eh bien vous êtes nettement plus précaire qu'auparavant. Alors cette précarité, elle a été organisée en partie par les entreprises et en partie également par les gouvernants qui ont mis en place des changements législatifs, des cadres légaux, institutionnels qui ont permis une progression de cette précarité. Et on le voit très bien actuellement, un pays, lorsqu'on voit l'augmentation du chômage dans les différents pays européens, ce sont ceux où on a promu le plus la précarité, que l'on a le chômage qui augmente le plus rapidement, donc c'est le cas de l'Espagne, et puis un pays comme la France. Il ne faut pas oublier que la France est le troisième marché mondial pour l'intérim. Il y a les États-Unis, bien plus loin la Grande-Bretagne, et la France juste après. On a un marché de l'intérim nettement plus vaste que le Japon, par exemple, qui est un pays qui est pourtant nettement plus gros que nous. Pourquoi ? Parce qu'on a fait un choix, et d'autres pays aussi, à nouveau, ont fait ces choix-là, de pouvoir s'assurer du risque de conjoncturel. Et le capital comme cela s'assure en ajustant très rapidement l'emploi. Et ce que l'on observe actuellement en France, eh bien, si vous prenez les chiffres que prévoyait l'INSEE il y a 7-8 mois, ils ne voyaient pas du tout une détérioration aussi rapide du marché de l'emploi. Ils sont obligés de changer les paramètres dans leur modèle parce qu'ils n'avaient pas anticipé à quel point il y avait désormais une capacité pour les entreprises d'ajuster aussi rapidement leurs effectifs. Donc cette précarité, c'est ça qui fait monter, effectivement, il y a tout un sentiment diffus, et souvent on dit, mais c'est pas nous qui sommes les responsables de la crise, enfin, je m'imagine comme travailleurs, et c'est pourtant nous qui en sommes victimes, et bien c'est une réalité, c'est vrai qu'on se trouve dans une situation où c'est bien plus sur le travail que doit peser le risque. Donc c'est le travail au niveau emploi, mais aussi le travail en termes de rémunération. C'est-à-dire que tout autour du discours de faire croître le partage des profits, sachant que donc, les travailleurs auraient une part des profits, eh bien, en fait, c'est surtout un partage du risque. Parce que ce que l'on voit, c'est que lorsqu'on donne de l'intéressement, de la participation aux travailleurs, en même temps, le salaire de base, lui, a tendance à décliner. Donc ça veut dire quoi? Que votre salaire de base décline et que la part variable, elle augmente. Et donc là aussi, bah, pour le capital, pour les entreprises, c'est un moyen d'ajustement majeur. On peut aussi jouer de manière nette sur les salaires. Donc on se retrouve avec des emplois qui sont plus précarisés et des emplois qui en même temps le sont avec des rémunérations qui doivent plus s'ajuster aux situations conjoncturelles. Et donc, le pacte en quelque sorte que l'on avait pu avoir au nez des Trente Glorieuses est en train de s'effriter. On est véritablement dans une situation où le capital ne prend plus le risque et c'est effectivement le travailleur qui doit supporter de plus en plus de risques. Alors cette situation de précarité, pour aller progressivement vers vraiment le micro du travail, elle se traduit par un mécanisme supplémentaire qui est celui de délitement des collectifs. C'est-à-dire que lorsque vous retrouvez, mettons, je ne sais pas moi, dans la grande distribution, vous avez des taux de rotation de la main-d'œuvre, c'est-à-dire le nombre de personnes par an qui démissionnent, qui sont en fin de contrat ou qui sont licenciées, le nombre de personnes qui rentrent, qui n'est pas loin de 100%. Ça veut dire que durant l'année, pratiquement tous les effectifs changent. Eh bien, c'est impossible d'avoir véritablement un collectif qui se crée avec un marché du travail aussi flexible. Et qui dit absence de collectif, eh bien, dit absence de revendication, incapacité pour les syndicats de s'implanter sur un site. Et donc, l'absence, en quelque sorte, de capacité de lutte ne fait que renforcer le cercle précédent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas capacité ensuite à s'opposer à des licenciements, à des non-renouvellements de contrats. Il n'y a pas capacité à venir à l'encontre de nouveaux dispositifs de rémunération. Et donc tout cela, en quelque sorte, s'entretient et effectivement donne naissance à un sentiment, mais qui à nouveau une réalité d'injustice dans le capitalisme, d'injustice par rapport au capitalisme qui avait pu ressortir des périodes de forte croissance à la suite de la seconde guerre mondiale. Donc alors qu'est-ce qu'on peut faire dans une telle situation? Et ça c'est pour un tout petit peu donc lancer plus loin le débat. Je pense qu'effectivement il faut essayer de remettre de la démocratie sociale, la démocratie industrielle au sein de l'entreprise. Et là, vous allez me dire, c'est au sein de l'entreprise, qu'est-ce que peuvent bien faire les gouvernants? Alors moi, je suis très intéressé par ce qui se passe en ce moment dans un certain nombre de pays anglo-saxons. Je dirais que chez eux, il y a un choix, donc c'est la Grande-Bretagne, encore plus l'Irlande, et là maintenant, l'Amérique d'Obama, c'est de faire un effort très particulier sur un aspect particulier, sur le salaire minimum. Dans ces pays, on a augmenté, on va augmenter de manière rapide le salaire minimum. Donc, Obama, 2011, le salaire minimum américain, c'est $9.50 de l'heure. Donc il a programmé une augmentation de l'ordre de 50% du salaire minimum. Alors quelle est la volonté? Lorsqu'on regarde ce que ça a fait en Irlande, eh bien immédiatement ça a fait un jeu de... Alors l'Irlande connaît sa crise actuelle, mais immédiatement le partage de la valeur ajoutée est reparti en faveur du travail. Il déclinait très très fortement, il a rebondi dès que l'on a mis en place ce salaire minimum. Et là, ce que l'on va voir avec la présence du salaire minimum, eh bien, on a en Irlande, et c'est un salaire minimum aussi élevé qu'en France, même un tout petit peu supérieur en termes de parité de pouvoir d'achat, eh bien, on voit que l'Irlande va arriver à faire un partage mieux, malgré la crise, entre le capital et les travailleurs. Et c'est un tout petit peu la logique qu'il y a derrière plusieurs des intellectuels penseurs de l'augmentation du salaire minimum fédéral américain. Alors, derrière cette histoire de salaire minimum, et ça, c'est un petit peu exprès pour titiller François Chérec, c'est quelque chose qui peut libérer les syndicats d'un poids, c'est d'un gros poids qui est celle de la négociation des salaires. Très souvent, les syndicats, on entend souvent cela en France, disent les présences de salaire minimum, c'est pour nous un obstacle à la démocratie sociale parce que ça nous empêche de négocier, parce qu'on a tout le temps cette augmentation, donc on est tout le temps obligé de courir après, etc. Bien, je dirais que d'une certaine manière, peut-être, c'est un outil qui pourrait, en laissant donc de côté l'aspect purement négociation salariale, aux corps sociaux au niveau des entreprises, de se recentrer sur d'autres problématiques qui sont tout aussi clés. Donc cette précarisation, c'est donc non seulement la précarité de l'emploi, mais on le voit aussi, certainement on en parlera, une précarité des conditions de travail. Et là, les acteurs de terrain ont aussi un rôle essentiel à jouer. Donc on peut imaginer que peut-être une manière en quelque sorte de se sortir de cette roue du capitalisme qui semble difficile à inverser et d'arriver à construire une complémentarité entre des politiques globales et puis des choix locaux qui seraient de se centrer sur d'autres aspects de ces ce qu'on peut qualifier de nouvelles injustices sociales au niveau de l'entreprise. En tout cas, c'est quelque chose qui, a priori, n'échappe pas aux politiques et aux acteurs syndicaux. On peut arriver à reprendre, en quelque sorte, ce qui a été pris et retiré comme type de risque de la part du capital. Donc je crois que je suis déjà au bout de mon quart d'heure, mais vous voyez, donc une évolution qui est à nouveau globale et certainement, là, dans le moment présent, des solutions qui peuvent être trouvées. Merci.
Merci beaucoup. Vous n'étiez pas au bout du quart d'heure. Mais,
je n'étais pas au bout. Ah ben,
mais
il y avait 14 minutes.
C'est très très bien de garder encore un peu de réserve pour le débat. Merci. François.
Oui, alors je vais... Ça marche, oui. Oui, moi je vais utiliser le quart d'heure qui m'est alloué pour faire quelque chose qui peut paraître assez ringard. Mais je voudrais défendre l'idée du travail, c'est-à-dire l'idée qu'il faut retrouver de l'intérêt à l'analyse, à l'étude, à la politique de l'activité même de travail, parce que j'ai l'impression que depuis une trentaine d'années, il y a eu une sorte de feu croisé qui nous a éloignés de l'intérêt du travail, qui est d'une part évidemment l'obsession de l'emploi, qui est parfaitement légitime et évidemment ces temps-ci qui a repris une grande légitimité, et une sorte de climat intellectuel nous laissant entendre que d'une certaine manière, le travail était une sorte d'activité nécessaire, un peu désagréable, dont la principale utilité était de nous offrir des loisirs dans lesquels on allait véritablement se réaliser. Alors, je crois que ce climat, il faut en sortir pour des raisons extrêmement simples. Et je vais m'appuyer sur un travail que j'avais fait il y a quelque temps, qui consistait à demander à des travailleurs, allant du cadre à l'ouvrier, ce qu'ils pouvaient, ce qui leur plaisait, ce qui ne leur plaisait pas dans leur travail, ce qu'ils trouvaient injuste, ce qu'ils trouvaient au contraire agréable. Et le premier constat que l'on fait, je vous demande d'excuser la trivialité de ce constat, c'est que le travail dans la vie, c'est fondamental. Et ce n'est pas simplement fondamental parce que ça permet de gagner de l'argent, mais parce que c'est perçu comme l'activité peut-être la principale activité dans laquelle un individu met en valeur, met en évidence ses capacités, sa production, sa liberté, sa créativité, etc. Bon, alors je ne veux pas revenir au grand discours messianique sur le travail, mais pour prendre des formules de gens que j'interrogeais, ils disaient, au fond, dans la vie, il y a vraiment deux choses fondamentales, c'est l'amour et le travail. Il n'y a que là où on sait ce qu'on vaut. Le reste... Aurélie Pascal, c'est des distractions.
Pas toujours. Hein.
Non, et comme il n'y a que là où on sait qu'on vaut, il n'y a que là qu'on prend évidemment des gifles considérables. Mais, d'une certaine façon, je crois que c'est important. Alors, pourquoi est-ce important? Je suis le discours des gens qui, au fond, sont d'excellents sociologues. La première, c'est qu'ils vous disent, dans des sociétés comme les nôtres, c'est le travail qui vous donne une place, c'est le travail qui vous donne une position, c'est le travail qui fait que vous vous présentez à d'autres. Vous ne présentez plus à d'autres en disant « je suis le fils ou le frère ou le cousin », vous dites « voilà ce que je fais ». Et d'ailleurs, les travaux sur les chômeurs montrent la légèreté des thèses disant « le travail disparaît ». Les chômeurs, ils souffrent d'abord de ce sentiment d'être abandonné par la société, de ne plus avoir de position sociale, d'être désaffilié, dirait Castel. Deuxième dimension du travail, les gens vous disent, et au fond les acteurs sont assez libéraux de cette manière-là, ils vous disent, quand je travaille, je vends quelque chose de moi et je ne me vends pas. Autrement dit, le contrat de travail est la garantie de ma liberté, d'une certaine façon. C'est quelque chose dans lequel je mesure ma valeur et il faut, je crois, le rappeler. D'une certaine façon, je deviens un acteur social parce que j'ai un contrat, je vends. Alors, évidemment, ça fait de grandes souffrances. Et puis, la troisième chose qui a quasiment disparu, qui est essentielle, c'est que la plupart des gens vous disent, même si je ne me réalise pas dans mon travail, même si je ne m'épanouis pas dans mon travail, j'attends de pouvoir m'y épanouir et me réaliser. Et la plupart des gens, on leur demandait de lister ce qu'ils aimaient dans leur travail et ce qu'ils n'aimaient pas dans leur travail. La plupart des gens font une liste toujours plus favorable à ce qu'ils aiment dans leur travail. Je crois qu'il faut se rappeler que la critique que l'on développe à l'égard du travail repose sur la force des attentes que l'on a à l'égard du travail. Et la plupart des gens vous disent, j'adore ce que je fais, mais mon chef de service est une ordure, mais les machines sont lamentables, mais à partir d'un engagement positif dans le travail. Donc je crois qu'il faut revenir, peut-être de manière un peu archaïque, à l'idée que le travail est perçu comme une activité socialement, subjectivement, moralement essentielle pour les individus. Et peut-être même, on pourrait faire l'hypothèse que ce que beaucoup appellent le déclin de la morale du travail, ce n'est pas le déclin de la morale du travail, c'est le déclin de la légitimité de la souffrance au travail. Moi, j'étais très frappé de voir que ce désir de se réaliser dans son travail est extrêmement profond chez des gens, y compris chez des gens pour lesquels c'est une dimension très faible, voire inexistante de leur travail. Il y a comme un droit démocratique à se réaliser, à s'épanouir. Alors je prends volontairement ce langage sentimental, mais après tout c'est le langage des acteurs et il n'est pas totalement insignifiant. Donc je crois qu'il faut revenir véritablement à l'idée que derrière l'emploi, il y a le travail et que le travail, c'est quand même là, pour l'essentiel, que se forment, que se fabriquent les citoyens, les acteurs d'une société, les individus d'une société. Alors, évidemment, plus j'attends du travail, plus je développe des critiques du travail. Et les critiques que les individus, que les travailleurs, que tous les travailleurs développent du travail sont des critiques organisées par une sorte de syntaxe, de grammaire un peu stable et qui est la suivante. Ils disent d'abord, le monde du travail est un monde paradoxal parce que c'est un monde toujours hiérarchisé, toujours, le monde du travail est hiérarchisé. Bon. Il est rare que ça soit une bande de copains qui fabrique des ordinateurs. Bon. Même de la hiérarchie dans le travail. Mais il faut que ce monde-là garantisse une égalité entre les individus. Et il y a donc de très fortes critiques relatives aux inégalités dans le travail. Inégalités de revenus, bien sûr, mais beaucoup d'inégalités de privilèges. C'est un monde qui reste dominé par les privilèges. Je me souviens de critiques qui pourraient paraître anodines, mais pourquoi la cantine pour les cadres, elle n'est pas la même que la cantine pour les ouvriers, alors que le salaire, que l'estomac des cadres et l'estomac des ouvriers, et même que les ouvriers ont plus besoin de calories que de cadres, que les cadres, etc. Des histoires comme ça, des histoires de qui salue, qui ne salue pas. Mais ce sont des blessures terribles, terribles. Je me souviens d'une infirmière qui dit une fois, le chef du service me dit, ah, je suis très content de vous connaître, vous êtes nouvelle dans le service. La fille dit, j'étais là depuis 13 ans. Voilà. Mais ça veut dire dépression nerveuse. Enfin, je veux dire, c'est des dénis d'égalité extrêmement profonds. Évidemment, l'évolution du marché du travail que tu as décrite crée des situations tout à fait incroyables. Genre, aujourd'hui, j'ai le sentiment, quand on écoute les gens, vous savez qu'à peu près en France, tout le monde est d'accord sur un écart de revenus de 1 à 4 comme étant à peu près acceptable. Bon, c'est d'ailleurs tout à fait étonnant de voir que l'infirmière dit il est normal que le patron du service gagne 4 fois plus que moi, etc. D'ailleurs, certaines trouvent qu'il ne gagne pas assez. Bon, peu importe. Mais les salaires des dirigeants apparaissent comme véritablement scandaleux. Il y a une atmosphère, de ce point de vue-là, pré-révolutionnaire. Les gens vous disent qu'ils comptent en années de SMIC. C'est-à-dire...
siècle.
Oui, mais je parlais de revenu mensuel. Donc, les gens vous disent qu'on n'est plus dans la même humanité. Il y a quelque chose qui est tout à fait nouveau là-dessus, avec même quelquefois une nostalgie du vieux patronat qui avait une forme de décence de ce point de vue-là. Et évidemment, il y a les salaires d'en dessous, qui eux aussi vous sortent de l'humanité, ce qui fait qu'il y a dans le monde du travail, il y a une sorte de barrière intérieure entre ceux qui sont dedans et ceux qui, progressivement, sont jetés. Et d'ailleurs, ce n'est pas forcément une barrière aussi sympathique que ça, car on blâme volontiers les victimes. Je pourrais parler de ça. C'est-à-dire qu'on est dans une société qui dénonce par exemple, le chômage et la pauvreté, sans avoir pour autant de compassion pour les chômeurs et les pauvres. Bon, je vous expliquerai pourquoi d'ailleurs, si c'est nécessaire. Donc, il y a vraiment là une demande d'égalité, et je voudrais dire d'ailleurs à ce propos que si on réfléchit sur la démocratie, le thème de l'égalité des positions sociales n'a pas vieilli, et je serais même très favorable à ce que le thème de la réduction des inégalités ne passe pas pour un thème ringard au bénéfice de la lutte contre les discriminations, qui est simplement la lutte contre les obstacles à l'accès à des places inégales. Donc il y a quelque chose dans le monde du travail qui est quand même beaucoup plus centré sur la réduction des places que sur la discrimination pour accéder à des places inégales. La deuxième chose, évidemment, qui est très importante, c'est que tout travailleur veut voir reconnaître son mérite. Et c'est quelque chose d'assez étrange que nous soyons à la fois très attachés à l'égalité et très attachés à ce que notre mérite soit reconnu. C'est-à-dire que tout le monde vous dit... je veux qu'il y ait de l'égalité. Ceci dit, le fait que mon collègue qui n'en fait pas, qui ne fout rien, ait le même salaire que moi, ça m'empêche de dormir. Et chacun d'entre nous ici le pense. Ou se compare. Pourquoi moi, dans le public, je gagne... Pourquoi moi, dans le privé, je gagne moins que celui qui est dans le public, qui en plus a une protection, etc. Donc, on est dans un monde de la comparaison dans lequel il y a un désir d'égalité qui est un désir très difficile, sans doute, à satisfaire, mais sur la clarté de définition des règles, des mérites et des carrières, etc. Critique inépuisable. C'est une critique inépuisable, mais quand vous vous intéressez aux gens qui gâchent la vie, je veux dire, c'est pas des choses du tout dérisoires du point de vue des individus. La manière de combiner l'égalité qui nous est due et la reconnaissance de nos efforts, de nos mérites, alors ça pose des questions philosophiques tout à fait passionnantes, en particulier le fait que le mérite est probablement une fiction, mais c'est une fiction à laquelle on croit. Et s'il y a des enseignants dans la salle, je leur signale que dès qu'ils corrigent un paquet de copies, ils croient au mérite. Donc, l'objection, j'espère que je l'ai déjà levée. Troisième désir de la part des acteurs, et qui m'a beaucoup frappé, je dois dire beaucoup frappé, c'est qu'il y a un désir, je dirais, d'autonomie, de créativité, de liberté dans le travail. Bon. Je pensais, de manière un peu naïve, que ces vieilles histoires sur l'aliénation au travail, sur la machine qui détruit l'homme, etc., tout ça, ça avait un peu disparu. Pas du tout. Pas du tout pour un tas de raisons. La première, c'est que, contrairement à une légende, on assiste à une taylorisation des services. Pendant longtemps, l'image terrible du travail, c'était évidemment le travailleur à la chaîne, les temps modernes et Renault-Billancourt. Bon. Alors, Billancourt a disparu, mais pas Renault et pas la chaîne, contrairement à une légende, mais surtout, ce mode d'organisation du travail s'est répandu dans les services qui avaient le petit privilège d'avoir une autonomie professionnelle. Bon, les gens m'ont raconté des histoires hallucinantes, par exemple, sur les techniques qu'on utilise pour faire qu'une caissière gagne 3 secondes par client. Alors, c'est très simple, il faut qu'elle tende la carte de crédit à celle qui s'en va en disant bonjour à celle qui revient. Bon. Eh bien, si elle fait ça, elle gagne 3 secondes par client et à la fin de la journée, ça fait 15 clients, ça fait beaucoup d'argent, etc., etc. Donc, vous avez véritablement le monde, la taylorisation n'a pas disparu. Et puis, vous avez une autre critique qui est tout à fait à l'envers. Ce qu'on appelle le néo-management, c'est un management qui consiste à dire aux gens, vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez, la seule contrainte qu'on vous donne, c'est d'atteindre les objectifs qu'on vous a fixés. Et là, on ne fait pas un transfert de contrôle social, mais on fait un transfert, je dirais, de liberté, de contrainte. Et là, vous avez le stress, l'angoisse, le type qui a le sentiment de ne jamais être à la hauteur des objectifs qu'il a intériorisés. Et vous êtes dans des formes de management qui seraient plutôt de type sportif. C'est-à-dire, on met une image de performance. Alors, les gens y adhèrent souvent, et c'est une grande volupté quand ça marche, parce que je me souviens de gens qui avaient le sentiment d'accomplir des sortes d'exploits. Mais ils vous disent, évidemment, au bout de 10 ans, ma carrière sportive s'arrête. Et donc, on a des problèmes chez les cadres qui, à 40 ans, sont déclarés vieillissants, fatigués, des compatibilités avec la vie personnelle qui sont catastrophiques. Et vous avez ce double mode de management qui fait qu'au fond, le monde du travail est un monde qui est porté par des revendications de justice extrêmement fortes et en même temps assez contradictoires. Et je crois qu'un des enjeux de la démocratie, probablement, c'est d'accepter que nous adhérons à des principes de justice qui sont aussi légitimes les uns que les autres et qui s'opposent entre eux, ce qui suppose justement un espace démocratique pour arriver à les combiner. C'est-à-dire que nous voulons être égaux, nous voulons que notre mérite soit reconnu et nous voulons être libres. Et nous savons très bien que si nous sommes parfaitement égaux, on ne sera pas véritablement libres, que si nous sommes parfaitement méritants, on ne sera pas véritablement autonomes, etc., etc. Et donc, il y a tout un espace de critique qui est très, très intéressant à décrire et qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation un peu étonnante, et je m'arrêterai après, qui est que tous les gens qu'on a interrogés vous disent « on a une expérience du travail, on a des sentiments d'injustice au travail qui ne sont plus relayés socialement ». C'est quelque chose qui nous a beaucoup frappé, le sentiment d'avoir une vie de travail qui n'est plus projetée sur la vie sociale, qui n'est plus relayée par des demandes sociales. Bon. Et ce n'est pas simplement des gens qui ont la nostalgie du vieux mouvement ouvrier dans lequel on passait de la revendication dans l'atelier à la révolution, comme ça en montant les étages, mais des gens qui vous disent on ne se reconnaît pas. Par exemple, quand on demande aux travailleurs, on leur demandait quelle est la cause de vos injustices, ils disaient un tiers les patrons, pour un tiers d'entre eux disaient les patrons. Bon, ça, les patrons, ça va, c'est une bonne réponse. Bon. Parce qu'on sait contre qui se battre. Mais un tiers vous disent les collègues. Et un tiers vous disent les usagers ou les clients. Par exemple, quand vous interrogez les enseignants, qu'est-ce qui vous fait souffrir? Les élèves. C'est quand même très difficile de faire grève contre les élèves. Qu'est-ce qui me fait... Bien qu'on y arrive par des manières détournées. Mais, vous voyez, il y a quelque chose qui fait que ça s'est un peu désocialisé. Et il vous dit surtout, dans l'espace politique, on ne se reconnaît pas. Donc je crois qu'il y a, si on réfléchit sur la manière dont on doit développer la démocratie, quitte à apparaître très archaïque et très, très nostalgique, je crois qu'il y a un enjeu qui est de réintroduire les questions du travail dans l'espace politique et démocratique, et pas simplement les questions de l'emploi, sachant évidemment que les questions d'emploi sont dominantes. Et là, je donnerai cinq arguments très courts. Premier argument, il faut arrêter d'avoir des débats métaphysiques sur savoir si le capitalisme est réformable ou pas. Il est réformable. D'ailleurs, il a toujours été réformé. D'ailleurs, le capitalisme pur n'a existé que dans la tête des professeurs d'université payés par l'État. Ça n'existe pas. Donc, je crois qu'il faut arrêter d'avoir des débats qui sont un peu terrifiants, d'une certaine manière. Deuxième thème, je crois que la question de la démocratie dans l'entreprise n'est pas une question dépourvue de sens. Il est bien évident que le chirurgien a plus de compétences que l'infirmière, qui en a plus éventuellement que l'aide-soignante. Il est bien évident, etc. Mais ça ne signifie pas que rien ne soit négociable dans le travail, et pas simplement dans l'organisation des horaires, dans le travail. Je ne comprends pas cette espèce de raisonnement qui fait que l'on serait dans un monde de pur ego, où la démocratie jouerait, dans un monde hiérarchique où il n'y en aurait plus. Je crois qu'il y a une nécessité de réfléchir. Alors, bon, on peut discuter, mais je crois qu'il y a nécessairement, dans l'organisation même du travail, à imaginer des pratiques démocratiques plus sérieuses qu'elles ne sont. Troisième thème, vous savez qu'on a parlé de flexécurité. Il y a eu une sorte d'enthousiasme exagéré pendant quelques semaines, et puis une sorte de dégoût tout à fait exagéré. Je crois que je ne vois pas ce qui nous interdirait de reposer cette question, c'est-à-dire de la manière de combiner le fait que le travail est mobile et les emplois le sont, et que les gens ont le droit de ne pas l'être. Je ne comprends pas pourquoi cette question, qui était apparue comme une solution miraculeuse, a brutalement parfaitement disparu. Si on ne la traite pas, et si je pense à ce que me disent les gens, il est évident que le monde du travail sera coupé en deux entre ceux qui ont acquis des protections et qui parleront évidemment non universel comme d'habitude, et ceux qui seront les outsiders qui n'entrent pas, auxquels on expliquera que c'est la faute au libéralisme. Bon. Donc, je pense que si on veut remettre le travail au centre de l'affaire, il faut s'intéresser à ça. Quatrième point, sur l'affaire du mérite, il y a une tension très forte entre le mérite tel que le définit l'école, qui attribue les places dans le monde du travail, et le mérite tel que le définit le travail. Je crois que la France souffre d'un déséquilibre en faveur de l'école. Et il ne serait peut-être pas complètement scandaleux que le monde du travail lui-même soit en capacité de développer ses propres systèmes de formation, ses propres échelles de mérite. Le fait d'avoir eu un diplôme, c'est un grand mérite, mais le fait d'avoir travaillé 15 ans dans une entreprise, d'avoir démontré qu'on a des compétences, ça n'en est pas nécessairement. Or, il y a en France une sorte d'abandon, au fond, des problèmes scolaires au monde de l'école et une sorte de désintérêt ou d'absence du monde, je dirais, du travail, par rapport au monde scolaire, qui a pourtant en amont la capacité de distribuer. Je crois que ça serait sans doute un enjeu très important. Dernier point, qui est le plus troublant, c'est quand j'ai demandé aux gens que nous avons interrogés ce qu'ils pensaient des patrons, je m'attendais à ce qu'ils disent « les patrons, on les a sur le dos, c'est des types abominables ». Eh bien, ce n'est pas la réponse que nous avons eue. La réponse que nous avons eue, c'est on a sur le dos des petits chefs hystériques et nerveux, et les patrons, il n'y en a pas. Et ça, c'est la très grande affaire, c'est-à-dire que les gens vous disent, dès que ça chauffe, au fond, le patron, disait-il, c'était un exploiteur, un sale type, mais il l'assurait. Il était là. Bon. Et ils vous disent tous, soit je suis au troisième rang de la sous-traitance, donc mon patron, c'est pas mon patron, c'est un type qui organise l'entreprise et qui se sert au passage, mais franchement, En plus, comme il travaille deux fois plus que nous, bon, c'est très difficile de le traiter comme un exploiteur. Et si dans une grande entreprise, le patron n'existe pas. Donc, il y a quelque chose qui est extrêmement troublant dans cette affaire, c'est que d'une certaine façon, le travail disparaît comme intérêt parce que les rapports sociaux autour du travail se diluent à l'infini. Et les gens vous racontent plein d'histoires comme ça en disant « je croyais que le cadre dirigé, ça chauffe, le cadre m'explique, non, c'est pas lui, et je monte, et c'est jamais lui ». Et donc on finit d'ailleurs par séquestrer les cadres pour que le patron se manifeste. Bon, ou alors il abandonne les cadres à la sauvagerie des travailleurs. Donc je voudrais dire simplement dans ce débat sur la démocratie que contrairement à ce qu'on a pu penser, les problèmes du travail, je dis bien de l'activité de travail, de la qualité du travail, sont essentiels, probablement aussi importants qu'un tas d'autres domaines. Et je ne vois pas d'ailleurs comment on réglerait la plupart des questions sociales qui nous préoccupent si d'abord nous ne prenions pas directement en charge la question de la qualité du travail, de la manière dont les gens y vivent, de leur état de santé, de la façon dont ils le combinent à leur vie personnelle. Donc mon plaidoyer est un peu ridicule, mais il consiste à dire qu'il ne faut pas, sous prétexte que le temps de travail diminue dans une vie ou sous prétexte que nous sommes dans des mutations économiques terribles, oublier que la plupart des gens jouent la qualité de leur vie et leur propre dignité dans leur activité de travail.
Merci beaucoup. Nous avons finalement accordé un peu de temps au travail tel qu'il est décrit de cette façon, c'est-à-dire par le bas et par la façon dont les gens qui le vivent l'expriment. François Chérec, à vous.
Oui, merci. Merci aussi à vous toutes et à vous tous d'être venus cet après-midi et puis à la République des idées de m'avoir invité. La CFDT a toujours voulu être partenaire de la République des idées et vous l'avez dit dans une tradition de travail entre les syndicalistes, les intellectuels, dans lequel on se sent bien et que nous allons essayer de poursuivre cet après-midi, qui est bien commencé, parce que je crois qu'on voit bien déjà une partie des choses que je voulais dire ont été dites, mais je vais les redire d'une façon différente. Non, mais je pense que c'est intéressant aussi que cette vision qui est vue en dehors de l'entreprise puisse y avoir une expression qui ait lieu à un autre endroit et que ce travail doit être positif, à condition que le syndicaliste que je suis ne se prennent pas pour intellectuels et vice-versa. Et c'est ça aussi comme ça que je crois que le débat va avancer. Et je trouve que ce qui a été montré là, c'est que la situation de la crise nous amène à avoir un débat. Ce débat était prévu avant, mais je dirais que ce débat prend toute son ampleur et son acuité pendant la crise, parce que la crise permet de mettre à jour plus que le problème économique, mais aussi le problème de l'organisation du travail, tel que François Dubé vient de le dire. C'est-à-dire, derrière chaque conflit que l'on a suite à la crise, on voit bien derrière apparaître les problèmes qui ont été soulevés, en particulier l'organisation du travail. Et j'avais, moi aussi, noté la réaction des salariés qui séquestrent leur cadre parce qu'ils ne connaissent pas leur employeur. Donc, quand j'entendais tout à l'heure le dire, les patrons, oui, mais à condition qu'on les connaisse et qu'on sache où ils sont, où est-ce qu'ils prennent des décisions, au nom de qui et pourquoi ils prennent les décisions, mais aussi toutes les conséquences que l'on voit directement la crise sur les sous-traitants, où des décisions qui sont prises par les maisons mères ou même par l'État ont des conséquences chez des sous-traitants qui, on le découvre, en tout cas le grand public le découvre, sont de deuxième, troisième, quand ce n'est pas quatrième niveau, etc. Donc, il est évident que sur tous les sujets qu'on va aborder, on voit bien que l'évolution majeure de l'organisation de l'économie, financiarisation, comme c'était présenté tout à l'heure, mondialisation, accroissement de la capitalisation boursière, ont abouti à une forme d'exacerbation de la concurrence et compression des coûts du travail, donc inévitablement conséquences douloureuses sur l'organisation du travail, sur les salariés. Le travail devenant de plus en plus un coût, alors, comme le disait François Dubé, moi je prétends toujours, la CFDT là-dessus a toujours essayé d'avancer sur ce sujet-là, on prétend toujours que le travail doit être aussi un lieu d'émancipation, et pas seulement un lieu de souffrance ou un lieu qui nous amène, je dirais, une satisfaction financière. Ça doit être aussi un lieu d'émancipation dans le travail et hors travail, en fonction du revenu que l'on a. Donc voilà, grande évolution qui est surtout, je dirais, visible par un changement des périmètres des entreprises. L'entreprise a changé et une mutation fondamentale dans l'organisation de la chaîne de production. On citait Renault-Billancourt. Renault-Billancourt, l'originalité par rapport à aujourd'hui, c'est que la chaîne de production, elle était unique. Hein, c'est-à-dire que Renault-Billancourt, Renault faisait tout. Et avec cette, comment dirais-je, cette obsession maintenant des entreprises de dire on se recentre sur notre métier d'origine, on en arrivait à un tel point que une entreprise comme Renault, qui s'est tellement recentrée sur son métier d'origine, n'a plus de métier d'origine, si ce n'est une marque, et que maintenant, les chaînes de montage sont des chaînes de montage de parties de la voiture qui sont faites par d'autres entreprises, et que Renault, à la limite, fait des moteurs, mais c'est tout ce que Renault fait réellement, si ce n'est assembler, quand ce n'est pas un assemblement total qui est confié à d'autres. Moi, j'ai visité, pas plus tard que mardi, Eliès, où Opel fait monter 100%, c'est-à-dire qu'une des dernières voitures que Eliès fait, c'est une voiture qui est montée à 100% chez Eliès, elle n'est même plus montée chez Opel, c'est-à-dire qu'Opel n'a plus que la marque, n'a même plus, pour ce qui est ce modèle-là, le centre de production, ce qui change inévitablement, totalement, le problème de la relation du décideur au travailleur, avec, je dirais, une chaîne totalement différente. L'éloignement du donneur d'ordre, tellement pensé qu'à une époque, l'ex-président d'Alcatel avait même envisagé une entreprise sans usine, en disant que le bout de la logique était que les marques pouvaient fonctionner sans usine, simplement en gardant simplement des centres de recherche pour pouvoir uniquement vendre, je dirais, ou proposer la construction des produits finis à d'autres. Alors, là-dedans, inévitablement, quand on éloigne le décideur de celui qui fait, on voit bien qu'on déresponsabilise l'un vis-à-vis de l'autre et on reporte, je dirais, les coûts sur ceux qui construisent, les entreprises qui construisent, les salariés qui font. Mais derrière ça aussi, et là, il faut qu'on se le dise au niveau syndical, un système aussi qui a plus ou moins collé à l'organisation du syndicalisme dans notre pays, parce que les organisations syndicales étant, par ailleurs, fortes dans ces maisons qui sont les maisons décideurs et qui transmettent la force, les propositions de travail à d'autres, c'est-à-dire que les organisations syndicales sont d'abord fortes dans les marques, d'abord fortes dans les maisons qui décident, avec une forme d'organisation du travail qui est l'externalisation du travail sur d'autres salariés, étant, quelque part, protecteur aussi pour le salarié syndiqué qui est dans la maison de donneur d'ordre. Tout ça faisant en quelque sorte, je dirais, un espèce de rideau de fumée sur les problèmes qui étaient présentés, sur les problèmes d'organisation et de conditions de travail, et où le travail est devenu de plus en plus une variable d'ajustement des entreprises plutôt qu'un lieu d'émancipation, je l'ai déjà dit. Alors, les conséquences pour les individus, pour les collectifs de travail, la première, elle est évidente. Le décideur n'est plus celui qui met en œuvre. Je dirais, des conséquences directement sur l'organisation et les conditions de travail. Si je pouvais donner un exemple, j'aurais dû venir avec la personne qui m'a interpellé en arrivant à la gare de Lyon ce matin. J'arrive à la gare de Lyon, un monsieur vient me voir et me dit « Ah, monsieur Chéret, je suis content de vous voir. Je travaille dans l'entreprise. » Malheureusement, j'ai oublié son nom, mais il faudra que je m'y habitue, parce que je lui ai dit qu'il me le rappelle la prochaine fois ou qu'il m'écrive, qui était la maison sous-traitante qui fait les sandwichs et qui fait la restauration dans les trains, qui avant était Carston Wagonlit, qui est une autre. Et qui dit on a changé de propriétaire, et depuis qu'on a changé de propriétaire, nos conditions de travail sont terribles, notre temps de travail a augmenté, notre salaire est bloqué, la pression de flux tendu est devenue catastrophique, c'est pire qu'avant, la SNCF s'en fout, et on aimait mieux l'autre avant, et la SNCF a changé parce que dans l'appel d'offres, a choisi celui qui leur venait le moins cher, et là on voit directement sur la baisse du coût pour la SNCF, qui est aussi potentiellement, soi-disant, une baisse du coût pour l'usager, des conséquences sociales et dans l'organisation du travail difficile, en tout cas insupportable pour la personne qui m'avait interpellé. D'autant plus insupportable que, comme lui, j'avais vu le président de la SNCF, M. Pépi, au grand journal de Canal+, jeudi soir, qui expliquait que ce n'était pas lui qui faisait les sandwichs, donc qu'il n'était pas responsable, qu'ils n'étaient pas mauvais, mais qu'il reconnaissait que ce n'était pas toujours avec bonnes conditions de travail pour les salariés, et pour cause, c'est lui qui en est le premier responsable. Donc voilà, je crois que si on pouvait matérialiser, je dirais, les conséquences de ce système, je crois que la meilleure façon, c'était d'écouter ce salarié qui m'interpellait. Deuxième conséquence, c'est le type de contrat de travail devient une variable majeure dans l'organisation du travail. Hein. Et si on s'est mis d'accord pour ne pas trop parler d'emploi, je crois qu'il est difficile de ne pas totalement en parler, parce que inévitablement, le contrat de travail, le type de contrat de travail, on a parlé d'intérim, on a parlé de sous-traitance, on a parlé de CDD, sont inévitablement importants, mais aussi source de conflits dans les collectifs de travail. Et là aussi, un autre exemple, Eliès, qui est actuellement en train de discuter de l'avenir de cette entreprise, une action syndicale forte, historique, en faisant embaucher dans l'entreprise les intérims et les sous-traitants. Et aujourd'hui que les salariés entendent parler d'un plan social de 300 personnes sur 900, le reproche qui est fait à l'organisation syndicale, c'est d'avoir intégré les sous-traitants et les intérims, les CDD et les intérims, en disant, si on ne l'avait pas fait, c'est eux qu'on aurait supprimés, alors qu'aujourd'hui on est au même niveau de risque, puisque tout le monde est un contrat à durée indéterminée, et on voit bien que ce type d'organisation, c'est aussi, je dirais, une façon aussi, ou en tout cas en termes de résultats, une façon de monter les salariés les uns contre les autres, les uns protégeant les autres. Je l'ai déjà dit, mais je crois que c'est important de noter que cette organisation des contrats de travail est directement liée aux conditions de travail. Intensification du travail, il y a déjà eu beaucoup de choses de dites, 2-3 chiffres, hein. 720 000 accidents du travail par an en France, donc 3 000 par jour, 200 par jour qui sont des accidents graves, c'est-à-dire avec des conséquences sur la santé, et 3 décès par jour. Donc on voit bien que, et une augmentation très importante ces dernières années des accidents et des conséquences des accidents du travail, et enfin des inégalités salariales fortes qui viennent de façons. On l'a dit par la sous-traitance, mais aussi avec, comment dirais-je, une démarche qui sort de l'entreprise, c'est-à-dire une démarche politique qui fait aussi que toutes les aides qui sont données aux entreprises sur les salaires, et je reviendrai par rapport au SMIC tout à l'heure et la provocation de Philippe Askedazi, toutes les aides sont données plus fortes à condition qu'on ait de bas salaires, c'est-à-dire moins on paye ses salariés, plus on est aidé vis-à-vis de l'État, ce qui amène inévitablement une démarche de déqualification des salariés et de destruction de l'organisation du travail. On sait très bien que le niveau de qualification est directement lié souvent au niveau d'organisation de travail, des conditions de travail. Et là, on a un système, je dirais, institutionnalisé qui renforce cette spirale de la désorganisation et des mauvaises conditions de travail. Alors, quelle réponse syndicale sur ces sujets-là? Alors, plusieurs. Nous, on n'abandonne pas la CFDT, le sujet, non pas de la flexi-sécurité, mais on appelle ça la sécurisation des parcours professionnels, c'est-à-dire d'avoir une réflexion sur est-ce qu'il faut protéger mieux protéger l'emploi ou le salarié, hein, avec tout la réflexion sur le portage des droits en disant on protège le salarié plus que l'emploi. Alors, c'est peut-être un peu contradictoire, ce que François Dubé disait tout à l'heure, mais là, des négociations qui ont commencé là-dessus, qui amènent certains résultats sur le marché du travail, certes insuffisants, mais qui montrent qu'on peut avancer sur cette démarche-là. Autre sujet sur la responsabilité sociale des entreprises, c'est-à-dire comment on responsabilise, et je vais y venir tout à l'heure sur la démocratie dans l'entreprise, comment on responsabilise l'entreprise, non seulement sur ses salariés, mais aussi sur ses sous-traitants et les salariés des sous-traitants et son environnement, c'est-à-dire quel nouveau lieu de négociation, ça sera ma conclusion tout à l'heure. Et ensuite, toutes les actions qu'on peut avoir sur le travail, je ne vais pas les détailler, mais améliorer le travail, c'est d'abord le connaître. Donc la CFDT s'est engagée depuis maintenant plusieurs années dans un chantier qu'on appelle le travail en question, où on interroge les salariés sur leurs conditions de travail pour essayer de donner des réponses. Alors ces réponses, elles sont de multiples ordres. Je vais en lister quelques-unes. Alors négociation dans l'entreprise ou en dehors, le temps de travail, on a abordé ce problème du temps de travail, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas de ceux qui disent que la réduction du temps de travail était un échec dans notre pays en termes de conditions de travail. C'était un échec là où ça n'a pas été négocié, où on n'a pas lié le problème du temps de travail avec l'organisation du travail et où on a une loi qui nous a imposé directement dans les entreprises et lié ce débat-là à tout ce qui est, évidemment, organisation, conditions de travail, conciliation, vie privée, vie professionnelle, santé au travail, tout ce qui est autour des améliorations de postes de travail, maintien dans l'emploi des handicapés, etc., etc., mais aussi sur l'évolution des métiers. Et là, je dirais une petite parenthèse sur les caissières. C'est-à-dire que le débat pour nous, syndicalistes, étant est-ce qu'on a une réflexion sur l'organisation du travail des caissières pour faire en sorte qu'elle ait le temps de dire au revoir à la personne qui parte et d'accueillir la personne qui vienne, et éventuellement de faire perdre 3 secondes à la personne qui attend derrière, donc peut-être 1 minute 30 à celle qui est au bout de la queue, mais plutôt de se dire, est-ce qu'on ne peut pas réfléchir à une organisation du travail différente dans les supermarchés qui amènerait peut-être moins de caissières demain, mais des métiers beaucoup plus intéressants, parce que je ne suis pas sûr que enfermer la caissière dans un travail répétitif soit obligatoirement très émancipateur comme avenir, et que la réflexion étant inévitablement l'organisation du métier dans le supermarché avec des aides, je dirais, aux consommateurs, les parcours, etc., etc. Et puis, autre réflexion sur la politique des cadres. L'allusion tout à l'heure est tout à fait juste sur les cadres, mais aussi prendre en compte la souffrance des cadres face au travail. C'est-à-dire que ces cadres, pas obligatoirement ceux qui sont séquestrés, mais ceux qui mettent en œuvre des décisions à laquelle ils n'ont pas participé, hein, étant la pire des choses pour eux, c'est-à-dire d'avoir le sentiment qu'ils sont eux aussi des exécuteurs de décisions qui sont prises par des gens qu'ils ne connaissent pas ou qui sont à un endroit sur lequel ils n'ont pas accès. Donc là, il faut aussi regarder dans l'organisation de l'entreprise aussi la façon dont on fait participer les cadres aux décisions. Pour finir cette présentation, je finirai par une réflexion derrière comment faire évoluer, pour améliorer toutes ces choses, la démocratie en entreprise. Hein, c'est le thème du colloque, et il me semble que la démocratie sociale ne prend pas assez de place peut-être dans le colloque. Il y a eu un débat hier sur ce sujet-là. On perçoit, à l'inverse du regard qui est parfois fait de l'extérieur, je perçois une demande croissante de participation des salariés à la vie démocratique de l'entreprise, qui est pour moi illustrée par deux phénomènes. 25% de participants aux élections prud'hommes, élections en dehors de l'entreprise, tout le monde a constaté ou a voulu analyser en disant c'est un désinvestissement dans le syndicalisme. Alors que les élections dans l'entreprise ont un taux de participation entre 65 et 75%, qui est plutôt plus élevé que les participations aux élections politiques, qui montre, je dirais, à partir du moment où on demande aux salariés de participer à la désignation et l'élection de leurs collègues de travail sur des sujets qui sont les leurs, là, ils participent parce qu'ils ont envie de participer, ils ont envie d'être maîtres de la désignation de ceux qui les représentent. Et c'est un élément important qui a été entendu par la CGT et la CFDT sur la loi sur la représentativité, où dorénavant, ce ne sera plus la loi qui fera la représentativité des syndicats, mais l'élection dans l'entreprise, la désignation des salariés, qui, je l'espère, va évoluer par les réflexions qui sont ouvertes sur la place et le rôle, par exemple, des CHSCT. CHSCT qui est une émanation du comité d'entreprise, faire en sorte que ce soit une structure pleine et entière. Et puis une réflexion que la CFDT, et ce sera ma conclusion, veut faire évoluer sur la gouvernance des entreprises. Quelle est la réflexion aujourd'hui de dire les syndicats sont débordés, il y a du radicalisme. Qu'est-ce qui se passe dans chaque entreprise où il y a ce type d'action? À chaque fois, il y a où décision qui est prise à un endroit qui est ignoré, décision qui est prise par des personnes dont on ignore même le nom ou la qualification, au nom de qui, je l'ai dit, dans quel pays, à quel moment, etc., etc. Et cette réflexion qui nous fait aller dans ce sens-là nous dit aujourd'hui, le dialogue social dans l'entreprise sur les sujets difficiles, y compris sur le temps de travail, l'organisation du travail, sont des lieux de dialogue social qui ne discutent que des conséquences de décisions qui sont prises ailleurs. On débat des conséquences des décisions qui sont prises sur les orientations économiques et stratégiques de l'entreprise, plan social pour PSE, l'emploi, conséquences sociales. On négocie des décisions qui sont prises sur le partage des richesses, négociations salariales, etc., etc. Donc, la proposition que la CFDT fait, qu'on aimerait bien mettre en débat suite au rapport Cotis sur, et non pas aller sur une démarche mécanique comme seul le président de la République pour l'inventer, un tiers pour le capital, un tiers pour les salariés et un tiers pour l'investissement, ce qui est une vision assez étatique du fonctionnement, mais au contraire avoir des lieux de confrontation, de négociation en amont des décisions sur les objectifs économiques plutôt que sur leurs conséquences. Hein, sur quelle est la confrontation avec les représentants du personnel sur ces objectifs-là, sur le partenariat et l'organisation de la production avec la sous-traitance. Et on voit bien là qu'il y a des conséquences fortes. Je prends un exemple, le plan automobile que décide le gouvernement, le président de la République dit on aide les entreprises automobiles à condition qu'elles ne ferment pas d'entreprises en France. Bon, si on ferme en Espagne, on s'en fout, hein, mais en France, c'est quand même mieux. Mais la conséquence, c'est qu'effectivement, Peugeot, Renault décident de ne pas fermer d'entreprise, mais on a des sous-traitants qui ferment et que Peugeot est en train de fermer des établissements dont ils sont actionnaires à 70%. C'est Forestia, c'est Treves, c'est Valeo, etc., etc. Donc, si on n'a pas un lieu de négociation globalement qui englobe toute la chaîne de production, on voit bien qu'il y a un thème de dialogue social qui va nous échapper. Négociation sur la répartition des richesses. Hein. Alors, pour la petite histoire, le patron du CAC 40 le mieux payé cette année aura, au niveau annuel, l'équivalent, j'ai fait le calcul, de 333 années de SMIC. Hein, ce qui est pas mal quand même pour une année, lui. Hein. Alors même s'il y a des footballeurs qui ont 1000 fois une année SMIC, ça n'excuse pas. Donc quelle répartition des richesses, évidemment, entre les parties prenantes, non seulement les parties prenantes de l'entreprise, mais aussi les parties prenantes de ceux qui participent à la production et à la richesse de l'entreprise, et enfin, négociation sur l'usage des différents contrats de travail qui ont des conséquences directement. Alors, à une certaine époque, la CFDT parlait d'autogestion. Je ne pense pas qu'il faille repartir là-dessus. On a une polémique positive, hein, qui est en train de s'engager entre organisations syndicales sur ce sujet-là, mais positive, hein, c'est-à-dire qu'on... C'est-à-dire que c'est ces sujets-là qu'il faut qu'on débatte, parce que c'est des sujets nobles. C'était l'organisation démocratique de l'entreprise. La CGT réclamant un droit de veto, ou suspensif plutôt, sur les décisions qui sont prises en amont. Et ça, c'est une tradition historique de la CGT qui était déjà le débat autour des lois Auroux. La CFDT plaidant sur des lieux de négociation pour pouvoir décider en amont. La CGT plaidant sur des droits de suspension de veto sur les décisions. Force ouvrière disant on touche pas à ça, c'est de la cogestion, affreux, nous on veut discuter uniquement de la fiche de paye. La CFDT parlant d'anticipation sur les décisions, non pas cogestion, plutôt codétermination comme d'autres pays le font, c'est-à-dire de faire en sorte que puisque chacun participe à la création de richesses, les représentants des salariés puissent aussi participer aux décisions qui leur incombent. Merci.
Merci beaucoup pour cette troisième intervention. Ce que je propose, c'est de laisser peut-être quelques minutes aux trois intervenants pour se répondre réciproquement, pour réagir s'ils le souhaitent, hein, sans aucune obligation, et puis après d'élargir la discussion. Philippe Askenazi.
Oui, peut-être je dirais ce qui est revenu un tout petit peu dans les deux présentations, les deux autres présentations, c'est l'image absente du patron. Effectivement, on a de plus en plus, on sait pas qui est le patron, et en revanche, on sait qui sont nos collègues, on sait qui sont les clients, et donc ça c'est un facteur effectivement qui n'aide pas pour véritablement construire une peut-être pas une lutte au sein de l'entreprise, mais effectivement arriver à agréger un mouvement collectif et savoir vers qui s'adresser. Alors là, sur ce plan-là, j'ai l'impression que quand même, là aussi, c'est un tout petit peu une construction qui a été faite par les entreprises elles-mêmes. C'est-à-dire qu'on voit bien la sous-traitance, etc., il y a des raisons économiques, mais aussi ça permet de diluer ces forces de responsabilité. Et ce qui me surprend toujours, c'est que finalement, les syndicats, hein, donc j'ai quand même une petite dent globale contre le mouvement syndical, syndicale, n'arrive pas à remonter en quelque sorte l'ensemble des fils et à déterminer qui est la personne centrale. Bon, on voit par exemple, récemment, il y a eu un seul en fait grand patron qui a été semi-séquestré, c'est le patron de PPR qui a été pris dans son taxi. Par des salariés. Et je crois que c'est un débordement. Les syndicats ne voulaient pas que ça jusque-là. Donc, ces salariés de Conforama, je crois qu'il y a une des filiales de PPR, ils sont allés directement jusqu'au patron. Ils ont remonté les fils. Ils ne sont pas allés voir le directeur de Conforama, perdu dans sa banlieue parisienne, qui effectivement, n'est pas celui qui est décisionnaire. Donc, j'ai quand même l'impression que là aussi, on ne joue peut-être pas on ne fait pas le travail jusqu'au bout. On sait qui sont bien souvent ces patrons. C'est très rare les cas où c'est un fonds de pension koweïtien qui détient l'entreprise. Dans la plupart des entreprises françaises et en fait des entreprises européennes, on sait qui est le patron. Donc on peut reconstruire cette image. Et il y a peut-être une volonté globale que dans la situation actuelle, on veut essayer de reconstruire une nouvelle démocratie en entreprise. Mais justement, on ne va pas s'attaquer en quelque sorte au patron. Donc je pense que ce plan là, il y a peut-être un travail à faire. Deuxième remarque, je pense que le débat sur la co-gestion, etc., c'est quelque chose qui va revenir en force. On va certainement, là aussi, c'est intéressant de regarder ce qui se passe aux États-Unis, non pas parce que c'est le modèle, mais parce que, bon, ben voilà, il se trouve qu'il y a des mouvements qui eux, massivement touchés par la crise. Donc, bon, on voit des nouvelles pratiques qui apparaissent. Et là aussi, c'est quand même assez frappant que le plan a priori de sauvetage de General Motors, c'est de faire du syndicat de l'automobile américain l'actionnaire principal et majoritaire de General Motors. Bon, à ce moment-là, on peut même plus parler de co-gestion. C'est le syndicat qui va être propriétaire du premier ou deuxième constructeur automobile mondial. Et ça, aux États-Unis. Donc on est dans un monde qui là aussi est en recomposition et je crois que pour les syndicats, effectivement, il faut même se poser ce type de questions pour prendre une position d'une certaine manière parce que c'est quelque chose qui risque de se présenter et potentiellement qui peut être aussi une option pour sortir des déséquilibres globaux actuels. Voilà, donc j'en dis pas plus.
Oui, non, mais moi je ferai très rapidement la remarque symétrique inverse. Ce qui est exactement la même chose, c'est-à-dire que quand on demande aux gens dans les entreprises ce qu'ils pensent des syndicats, etc., ils vous disent en général les syndicats sont trop en haut. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'aspiration du syndicat. Alors c'est General Motors qui m'est pensé, c'est-à-dire que le syndicat organisera une grève contre le proprio, etc., etc. Ce qui se passe d'ailleurs à ce qui se passe à EDF ou le comité d'entreprise, à un syndicat qui fait grève contre, etc. Mais de manière plus sérieuse, au fond, il y a quand même un enjeu peut-être nouveau pour la part des syndicats dans l'organisation du travail, c'est que peut-être que le syndicalisme devrait s'intéresser au management, c'est-à-dire à l'organisation du travail même, ce qui est extrêmement difficile, parce que beaucoup de gens vous disent, au fond, le syndicat s'occupe des très grandes affaires, mais nous, dans le travail, comme toujours, c'est les petites affaires qui nous intéressent, et dans ces petites affaires-là, au fond... on est très absent, on n'a pas vraiment de pouvoir. Ça ne console pas véritablement que d'être représenté au comité d'entreprise alors qu'on n'a pas de poids sur l'organisation ménale. Il y a peut-être aussi à devenir plus basiste en même temps qu'il faut être sans doute plus au sommet du système.
Oui, de ce point de vue-là, juste une incise. La montée en légitimité des CHSCT est tout à fait significative, à mon avis, de cette aspiration à plus de proximité dans l'action syndicale ordinaire.
Oui, première chose, je ne l'ai pas dit dans mon intervention, ça m'a échappé sur l'histoire du SMIC. J'ai une approche un peu différente de Philippe Askenazy, parce que il faut lier tout ça au problème d'aide des entreprises. J'en ai parlé un peu dans mon intervention. Une entreprise qui a ses salariés au SMIC est quasiment aidée à quasiment 100% par rapport aux charges sociales. Et l'aide des charges sociales baisse en fonction de l'évolution du salaire. Si vous augmentez le SMIC, vous avez deux effets. C'est que vous augmentez encore les aides qu'on donne aux entreprises.
Et ça devient le salaire moyen.
Oui, et ça devient le salaire moyen. Donc ça veut dire, et on a plus de salariés au SMIC. Deuxième effet. Donc moi je préfère Et ça, c'est un débat. Et dans les mouvements qu'il y a actuellement, je pense que c'est un des sujets, on nous dit toujours, les syndicats ne savent pas ce qu'ils veulent. On va repréciser ça. Mais ça, c'est un des éléments importants, c'est de dire les aides que vous donnez aux entreprises doivent être conditionnées à des accords. Et c'est à nous de voir, après une négociation avec le patronat, quels sont les thèmes. Et les thèmes, pour moi, c'est l'évolution de la qualification, c'est-à-dire formation-qualification, puisque augmenter le SMIC et augmenter les aides à une entreprise, c'est la contrainte à ne pas qualifier ses salariés. Je ne vois pas pourquoi elle ferait l'effort, parce qu'on échange une augmentation des aides. Je ne vois pas pourquoi elle ferait l'effort de qualifier et de permettre un déroulement de carrière. Et il n'y a rien de pire dans une entreprise qu'on augmente le nombre de personnels au SMIC, où ils ont le sentiment qu'au bout d'un moment, même les qualifiés sont au SMIC. Donc, ce serait plutôt de travailler sur une contrepartie pour déroulement de carrière et organisation conditions de travail, qui nous donnerait des leviers pour la négociation d'entreprise. Juste une incidente là-dessus. Ensuite, sur General Motors, Philippe Ashkenazi ne peut pas dire ça sans savoir pourquoi ils ont fait ça, les salariés de General Motors. C'est que leur fonds de pension était lié à l'entreprise. Et que si l'entreprise disparaît, leur fonds de pension disparaît. Donc ils ont accepté d'être copropriétaires de l'usine à leur corps défendant, j'ose dire. Ils n'avaient pas envie.
Donc, c'est que globalement, c'est les retraités qui seront, qui vont les exploiter.
Et oui, voilà. Et c'est que, mais c'est quasiment ça. C'est-à-dire que les 40% dont ils deviennent actionnaires, c'est simplement le montant de ce que l'entreprise doit en fonds de pension. Donc ce qui veut dire que demain, si General Motors meurt, non seulement ils n'ont plus leur boulot, mais ils n'ont plus leur retraite. Et alors, j'insiste, c'est-à-dire que les salariés sont devenus gestionnaires de l'entreprise à leur corps défendant. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas envie, ils sont forcés. Et lier, je dirais, la protection sociale à l'avenir de l'entreprise, il n'y a rien de pire. C'est pour ça que, personnellement, je reste totalement satisfait de la décision qu'on a prise en 2003 sur l'évolution des retraites par répartition dans notre pays. Parce que c'était ça ou ça, l'évolution. Hein ? Donc voilà, j'insiste. Alors après, où je partage... Alors c'est l'interrogation que l'on a. C'est-à-dire que le patron de PPR s'est fait séquestrer dans son... Parce qu'il le connaissait. Le patron de Danone, on le connaît. Le patron de Caterpillar, ils ne le connaissent pas. Ils ne le connaissent pas. Et c'est là que devient, je dirais, difficile. Le patron d'Alcatel, je citais tout à l'heure, les salariés le connaissent. Donc on voit qu'on a là des lieux encore qui sont des lieux de discussion en termes de difficultés. On a de plus en plus d'entreprises. Et en particulier, on cite beaucoup les grandes, mais dans les petites et moyennes. C'est-à-dire que dans quasiment toutes les petites entreprises qui sont en difficulté, une grande partie d'entre elles sont des investissements étrangers, hedge funds et compagnie, qui sont devenus propriétaires des entreprises dont on ne connaît pas le propriétaire, ce qui pose un vrai problème, parce que là, c'est souvent aussi dans ces entreprises qu'il n'y a pas d'organisation syndicale.
Merci beaucoup. Je mets mes lunettes pour regarder les demandes d'intervention. Et je le fais au sens propre. Oui. Alors... on va commencer par l'extrême gauche de mon paysage, mademoiselle ou madame.
Bonjour, merci. Éléonore Perrier, je suis élue à la ville de Grenoble et à la métro, qui est une ville de gauche et effectivement un centre à gauche. J'aurais deux remarques et une question. La première remarque, c'est sur le titre même, « Nouvelles pratiques, nouvelles injustices ». Et j'ai assez peu entendu le fait qu'il y avait des injustices anciennes. Et je ne citerai que, par exemple, la question de l'égalité salariale. Je regrette qu'il n'y ait pas une dénonciation plus importante de la part des syndicats, dans le privé, puisque dans le public, on n'est pas effectivement confronté à ce problème-là, mais qu'il n'y ait pas une concertation et une dénonciation collective pour lutter contre cette inégalité qui, voilà, en 2009, est complètement incompréhensible. Alors, évidemment, on peut dire que c'est une question de volonté politique. Obama l'a instauré en janvier dernier, mais ce n'est peut-être pas suffisant. On ne va pas attendre, enfin, je pense qu'à l'heure actuelle, on ne va pas attendre voilà, que ça se fasse au niveau politique. Je pense qu'il y a vraiment des questions de pression à faire à ce niveau-là. La deuxième remarque, ce serait sur quelle perspective. Ça a été abordé à la marge, la question de la répartition des rôles entre hommes et femmes, toujours. Et c'est vrai qu'il y aurait un vrai travail, mais de révolution interne, intérieure à chacun et dans sa vie personnelle, pour effectivement accepter que le travail s'organise, puisqu'on parlait de réorganisation de travail, donc que le travail s'organise différemment entre hommes et femmes et qu'il y a un certain nombre de répartitions des tâches qui soient différentes. Bon, un certain nombre de sociologues en parlent. Et ma question porte sur la question du droit au travail. Je ne l'ai pas entendu, mais effectivement, alors on parlait des différentes causes d'injustice. Quelle responsabilité pour les hommes et femmes politiques, puisque ce sont eux qui font le droit, qui donnent le cadre législatif, qui désignent ou non un certain nombre d'inspecteurs du travail, enfin on connaît leur nombre insuffisant en France. Voilà, qu'est-ce qui est fait à ce niveau-là? Est-ce que les salariés, les employés ont conscience qu'il y a une responsabilité politique ou pas, qu'il n'y a pas que leur patron également? Et également, juste sur la question du droit au travail, quelle est la part que vous donnez à la Cour de justice européenne qui met en concurrence le droit de la concurrence libre et non faussée et le droit social à son détriment, évidemment? Merci.
Nous allons prendre encore deux questions pour faire tout de suite. Alors, je pense maintenant à l'extrême gauche de l'autre côté. Donc. Puis après, on t'apprend au centre, hein, bien sûr.
Christian de Battisti, j'habite au centre et je vote à gauche. Voilà, je voulais vous dire que pour moi, il ne faut pas mettre sur le même plan le salaire d'un chanteur de rock ou d'un footballeur et celui d'un chef d'entreprise. D'abord parce que le chanteur de rock et le footballeur, ce n'est pas eux qui décident de leur salaire, contrairement au chef d'entreprise. Mais surtout parce que le chanteur ou le footballeur, ça ne tire pas à conséquence, ce n'est pas grave. Tandis que le chef d'entreprise a des responsabilités sociales, a des responsabilités vis-à-vis de l'ensemble de la société, vis-à-vis de l'environnement, qui font qu'on confie ces responsabilités à un certain type d'homme. Alors on dit, si on ne les paye pas bien, ils vont les travailler à l'étranger, mais peut-être qu'il vaudrait mieux y mettre un autre type d'homme qui soit capable d'assumer l'ensemble de leurs responsabilités et pas seulement de satisfaire l'actionnaire, sans compter que souvent, il y a conflit entre l'intérêt de l'actionnaire et celui du dirigeant qui, s'il fait passer son intérêt personnel avant, peut négliger même celui de ses actionnaires.
Le micro, peut-être.
Si une usine n'a plus de commandes, évidemment, il faut licencier. J'ai l'impression que les patrons se moquent complètement des clients. Je suis client de Orange et de France Télécom et je vous assure qu'il faut avoir très bon caractère pour ne pas se mettre en colère.
Mais ils ne licencient pas Orange.
Dernière question et puis ça après on prendra un peu de...
Oui,
juste à côté. Donc.
Merci. Oui, bonjour. Deux choses par rapport, vous parliez tout à l'heure du salaire minimum. Est-ce qu'il pourrait y avoir quelques réactions par rapport à l'idée quand même aujourd'hui qui fait débat, enfin pas vraiment débat, enfin pour moi en tout cas il ne devrait pas y avoir débat sur le salaire maximum. Et puis deuxième chose, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi avoir quelques réflexions sur la chance malgré tout que peut-être représenter la crise actuelle sur la façon de représenter le travail et que la course à la productivité sans cesse puisse être mise en cause, qu'il puisse y avoir une réflexion, le fait que nous vivions dans un monde limité, aux ressources limitées, on sait qu'on ne va pas pouvoir produire à l'infini et travailler jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à produire et qu'il n'y ait plus rien à exploiter. Est-ce que justement par rapport à ces nouvelles pratiques de pression sur les travailleurs, de concurrence entre eux pour être toujours les plus performants, parce que tout ça, il pourrait y avoir une remise en cause radicale, profonde, fondamentale, une réflexion qui soit menée aussi au niveau des syndicats, des partis politiques, pour remettre en cause cette course au productivisme sans cesse. Merci.
Merci. Voilà, je crois pour ce premier tour. Donc, les questions de l'égalité homme-femme. Responsabilité.
Oui, il n'y a que des hommes déjà autour de cette table.
Ouais. C'est juste.
Oui, sur ce sujet-là, puis un petit peu sur les autres aussi.
Très bien.
Moi, je partage le cri d'indignation sur les problèmes d'inégalité salariale entre les hommes et les femmes. Je pense qu'il est injuste de dire que les organisations syndicales ne disent pas d'une seule voix ces éléments-là, parce que je pense que c'est des éléments, je dirais, communs et de travail. Mais juste deux réflexions sur ce que vous avez dit. Obama l'a instauré. La loi française, on en a 10 des lois qui disent que c'est illégal qu'il y ait une inégalité salariale entre les hommes et les femmes. 10. Donc on sait très bien que la loi, ce n'est pas la loi qui change. Ce qui change, c'est les pratiques, les négociations d'entreprise, la façon de faire. Donc déjà, Obama, il peut faire une loi sur l'égalité salariale. Ce n'est pas ça qui fera changer les choses. Peut-être que ce sera un élément de sensibilisation et qui amènera une obligation de négociations sur ces sujets-là. Et ce que je disais, moi, sur tout à l'heure le SMIC et les contreparties des aides aux entreprises, c'est un sujet, nous, qu'on souhaite qu'il soit une des contreparties des aides aux entreprises. Deuxième élément, ça ne concerne pas le public. J'ai envie de dire mon œil. Mon œil. Il faut regarder le nombre d'hommes qui sortent de l'ENA par rapport au nombre de femmes, et vous verrez que l'encadrement de la fonction publique, c'est d'abord un encadrement d'hommes. Ce qui veut dire que l'inégalité salariale entre les hommes et les femmes, c'est aussi, d'abord, le système scolaire. Le choix de l'école pour les garçons et pour les filles. C'est aussi la politique familiale, où en France, on a choisi, et Dominique Méda pourrait en parler très, très longtemps à ma place, on a choisi d'aider les femmes pour s'arrêter de travailler pour élever les enfants, plus que les moyens d'aide collectif pour les personnes qui ont des enfants pour travailler. Donc il y a tous ces éléments-là aussi qui sont à rajouter sur politique inégalité salariale, etc., etc. Rapidement, Cour de justice sur l'Europe, je pense que ce serait un grand débat, parce qu'on a un débat à la Confédération européenne des syndicats. Alors, moi, je l'avais noté, c'est vrai que le sujet de l'Europe n'est pas paru dans le débat, c'est un sujet très important, mais bon, on ne peut pas tous les aborder. On a une vision assez différente des décisions de la Cour de justice pour l'Europe. Hein. C'est une décision qui était négative pour les syndicats de l'Europe du Nord, qui dit, puisqu'il n'y a pas d'accord hors entreprise, c'est-à-dire de branche ou de la loi, les entreprises peuvent faire ce qu'elles veulent, parce qu'en Suède, ils n'ont quasiment pas de loi sur le travail, ou très réduit, quasiment pas d'accord de branche et que des accords d'entreprise. Donc une entreprise étrangère qui vient, qui ne respecte pas ça, fait de la concurrence déloyale, mais dans le droit suédois. Alors qu'en France, on n'accepterait pas que ce soit le droit d'entreprise qui fasse le droit du travail, et que nous, on est sur la loi. Donc la décision de la Cour de justice de l'Europe là-dessus est plutôt favorable au système français qu'au système suédois. Donc là aussi, c'est le problème du droit social au niveau européen qui est contradictoire. Alors, 80% de syndiqués d'un côté, moins, c'est l'histoire. La loi décide en France, l'État décide de tout, la loi décide de tout. C'est aussi une culture, ce qui veut dire que nous, Français, on veut une harmonisation des droits sociaux à condition que ce soit des droits français en Europe. Je vais vite, c'est le dernier point, parce que je vais laisser mes coéquipiers là réagissent sur d'autres sujets. C'était sur le problème des ressources et de l'environnement. Moi, c'est un sujet qui inévitablement est important. Et la proposition que l'on fait actuellement de dire la crise, qui est une crise économique, une crise de financiarisation de l'économie, une crise morale, c'est aussi une crise environnementale. Et c'est la raison pour laquelle il faut qu'on profite, entre guillemets, cette crise pour faire en sorte que les investissements dans les politiques industrielles pendant cette crise soient faits en fonction de l'économie qu'on veut demain, de l'industrie qu'on veut demain. Je prends deux exemples. Pas loin d'ici, à Saint-Auban-sur-Durance, un endroit qui m'est particulièrement cher parce que j'ai travaillé assez longtemps, il y a une usine chimique qui ferme. Et il y a une usine qui est en train de se construire, Silpro, c'est pour faire des panneaux photovoltaïques, qui serait la plus grosse usine d'Europe. Il manque 75 millions pour faire. 75 millions, c'est le montant des dessous de table de Total quand il s'installe à certains endroits en Afrique ou autre. Total était le propriétaire de l'usine chimique. C'est maintenant qu'il faut profiter pour passer de la chimie, de passer là-dessus. Le problème de la voiture propre, je disais, j'étais à UIS, c'est maintenant qu'il faut investir dans ces sujets-là. Donc faisons en sorte que la crise, effectivement, soit aussi un moment d'opportunité pour changer nos objectifs économiques et faire en sorte que le développement durable, l'environnement, la voiture propre, etc., etc., soit un des moteurs de la sortie de crise. Oui, mais c'est... Oui,
Non, moi, je voudrais... Le monde du travail, est, quand on va dans les entreprises, etc., Il y a des choses terribles, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui trouvent que c'est très intéressant ce qu'ils font, qu'ils ont heureusement des collègues, que c'est... Enfin, je veux dire, il y a une image qui est en train de se créer du travail, qui est quand même une image, je trouve, tragiquement négative. C'est pas aussi affreux que ça. Et, non, c'est souvent affreux, mais on peut dire... On peut dire, j'aime bien mon boulot, je suis convenablement payé, mes collègues sont charmants, sans être un collabo. Je veux dire, ça arrive. Et non, mais il faudrait quand même bien le comprendre. Ce n'est pas ce que disent les salariés, c'est ce que disent les gens qui les regardent et qui ont souvent, d'ailleurs, eux, des normes de travail tellement chic qu'ils ont le sentiment que c'est l'enfer. Bon, moi, je me souviens, je pourrais raconter 1000 anecdotes. On dit aux caissières, c'est un travail, vous êtes les nouvelles d'années de la Terre. Et ils disent, ah non, c'est bien, caissière, c'est pas mal. On a des relations, c'est toujours... Enfin, voilà, il faut faire attention à ça. Deuxième chose, avant, c'était pas terrible non plus. Et moi, j'ai jamais rencontré des gens dans les usines ou ailleurs où je suis allé, mais j'ai pas une expérience comparable, qui me disent, on voudrait revenir au temps d'avant. Parce qu'au temps d'avant, il y avait d'autres manières d'extraire la plus-value qui n'étaient pas non plus terribles. Lisez les vieux livres sur la description de la chaîne du temps béni des Trente Glorieuses. Les types marchaient au Ricard, à l'alcool et avec des contremaîtres garde-chourme. Donc, tout ne va pas nécessairement dans le pire du sens. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a peut-être des raisons d'agir et d'être un peu mobilisé, parce qu'il n'y a pas cette fatalité du pire.
Peut-être un petit mot là sur la question de course à la productivité, monde limité, etc. Je crois qu'il y a une déconnexion totale en fait entre les problématiques environnementales et les problématiques de productivité ou de productivisme. On peut tout à fait avoir un développement durable, soutenable pour la Terre et maintenir le productivisme, voire l'accentuer. Par ailleurs, bon, personne ne s'en rend véritablement compte, mais lorsqu'on fait du tri sélectif, on a l'impression qu'on participe au développement durable. Surtout, on participe à une nouvelle activité qui est celle des vérificateurs de tri d'ordures ménagères. Donc, vous avez aux périphéries des grandes villes les lieux de nouveaux zones terroristes avec toutes les contraintes. Alors là, on revient même aux contraintes qu'on pouvait connaître auparavant, enfin, ce qu'on pensait être disparu, c'est-à-dire cumul à la fois d'un travail physique intense, très bruyant, avec des risques chimiques, des risques biologiques, bon, tout ça, donc un cumul total, eh bien, c'est le développement durable qui crée un nouveau métier, en quelque sorte, qui nous ramène 40 ans en arrière. Donc je crois qu'il y a vraiment une déconnexion entre les deux, ce qui ne veut pas dire qu'effectivement c'est pas aussi le rôle des organisations syndicales, des mouvements sociaux, etc., de réfléchir à la responsabilité sociale en entreprise et environnementale et au développement durable. Mais je ne crois pas que ça sera ça qui amènera une disparition du productivisme, des contraintes, voire une mécanique de décroissance.
Merci beaucoup. J'ai ôté mes lunettes, donc je ne vous donne plus la parole. Par contre, je fais une dernière annonce avant que nous nous séparions. C'est le fait qu'il y a au Café des Auteurs, vous savez qu'il y a ici les endroits qui sont les endroits affichés, puis les endroits alternatifs qui sont très précieux. Café des Auteurs à 18h, donc Anne Simonin et Roger Establé qui présentent leurs livres et qui les soutiennent. Voilà, merci beaucoup pour votre participation. Merci aux intervenants.
On aurait pu parler 3 heures.
Ah oui. C'est amusant.